Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Marie a 19 ans lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte de son premier et unique amour. Elle vit encore chez son papa, doit passer le bac et n'a aucune idée de ce qu'elle va faire, bien que la réponse se trouve déjà en elle. Mais Marie a aussi le sens des priorités et sait qu'elle doit privilégier ses études avant de prendre la décision qui va bouleverser sa vie. Diplôme en poche, elle décide de poursuivre sa grossesse et son petit ami l'accompagne dans cette grande aventure. Dans cet épisode, Marie nous raconte comment elle a vécu ses premiers mois de jeune maman encore installée dans sa chambre d'adolescente, comment elle a construit son nid en trouvant un travail et un appartement, et pourquoi elle a mis fin à sa relation avec le papa de son fils. Bonne écoute! Bonjour Marie!
Bonjour!
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi de m'accueillir chez toi.
Alors, tu es la maman d'un petit garçon.
Oui, c'est
quel
ça.
Quel âge il a?
Il a 6 ans.
Et ta grossesse, tu l'as eue assez jeune?
Oui, c'est ça. Je suis tombée enceinte à 19 ans et c'était une grossesse surprise. Donc du coup, en fait, j'étais en couple avec mon premier amour. Et en fait, mes règles n'ont jamais été régulières. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis pas trop inquiétée. Ça me paraissait normal. Sauf qu'au fur et à mesure des semaines qui passaient, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas habituel. Et en fait, j'étais en plein préparatif du bac. En fait, j'étais vraiment dans mes cours. Et mon copain, à ce moment-là, je lui avais parlé de mes doutes. Et il m'a suggéré de faire un test de grossesse. Sauf que moi, je ne voulais absolument pas faire le test de grossesse tant que les épreuves du bac n'étaient pas passées. Parce que je voulais pas, si jamais c'était positif, je voulais pas en fait gâcher mes 4 années de lycée pour cette nouvelle-là. Donc je voulais vraiment prendre sur moi, me concentrer sur le bac et puis après faire le test de grossesse pour voir si il y avait une éventuelle grossesse quoi.
Donc, et t'as réussi à occulter du coup ça pendant tes examens?
J'avais pas le choix, je me suis franchement j'étais focus dans les cours parce que je voulais pas redoubler et parce que pour moi c'était trop important d'avoir le bac pour commencer la vie active. Donc du coup je voulais vraiment je me suis pas donné le choix.
D'accord.
Donc j'ai fait ça. Et après, une fois que toutes les épreuves sont passées, ben je n'osais pas aller à la pharmacie. C'est bête, mais je n'osais pas aller à la pharmacie pour m'acheter un test de grossesse parce que je ne voulais pas qu'on me regarde, qu'on s'interroge parce que ben, c'est vrai que je faisais très jeune. Donc du coup, j'avais un peu honte d'aller chercher un test de grossesse. Donc du coup, c'est mon copain qui s'en est chargé. Et en fait, à ce moment-là, je vivais chez mon papa parce que mes parents sont séparés depuis que j'ai 12-13 ans. Et du coup, je vivais chez mon papa je suis allée dans ma chambre et j'ai attendu le lendemain en fait pour faire ce test de grossesse là. Donc je me suis retrouvée à prendre mon petit déjeuner un matin. J'étais toute seule chez moi et je mange mes céréales et puis là je me dis ah oui, il faut que je fasse mon test de grossesse. Et en fait là, en fait, quand je me suis levée de ma chaise dans ma cuisine, j'ai vraiment eu c'est comme si en fait j'étais hors de moi et comme si je savais qu'une étape de ma vie allait être chamboulée. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, peut-être l'instinct maternel, je sais pas. Mais je savais, enfin je me suis dit avec ce test de grossesse à la main, je me suis dit là je vais aller aux toilettes. Dans 3 minutes je ressors des toilettes, ma vie en 3 minutes elle peut changer quoi. Mais vraiment de tout au tout quoi. Et du coup je suis allée aux toilettes. Donc, bien évidemment, le stress, les mains moites, trop chaud, enfin, ouais, horrible. Et du coup, je fais les tests de grossesse et je vois que c'est marqué 2-3 semaines, quoi. Donc, je regarde le test et puis je pleure. Voilà, je pleure. Je vais dans ma chambre qui est d'ado. En fait, je rentre dans ma chambre d'ado, je vois tous mes posters, mon chanteur préféré avec un lit, une place et tout ça. Et je regarde ma chambre et je me dis, purée, quoi, je suis enceinte. J'ai eu qu'un copain, en fait, dans ma vie. J'ai pas, entre guillemets, voilà, vécu ma jeunesse comme mes copines le vivaient à ce moment-là. Et du coup, je me retrouve avec cette nouvelle-là. Donc, j'étais assez abasourdie, je savais absolument pas quoi faire. Donc, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et à ce moment-là, j'avais très peu de contact avec ma maman suite au divorce de mes parents. Mais je ne voulais pas, même si j'étais proche de mon père, pour moi c'était impossible que je lui annonce cette grossesse-là. Donc j'étais sur mon lit en pleurs. Là, mon père, il rentre chez moi, donc j'essuie mes larmes, je fais mine de rien. Il me fait « Bon ben Marie, j'y vais au travail, je rentre ce soir. » Donc je lui fais « À ce soir. » Donc il part et là, bah, je repleure, voilà, et j'essaye de réfléchir comment je vais faire pour lui annoncer justement cette nouvelle-là. Et il avait une très bonne copine. Et du coup, j'ai appelé sa meilleure amie justement. Et je lui ai fait, voilà, je suis enceinte. Est-ce que tu peux dire à papa, après son boulot, de passer chez toi boire un café? Et tu lui annonces. Parce que moi, je pourrais pas. Mmh. Elle me fait, ok, je fais ça. Et du coup, moi, je suis... à ce moment-là, mon copain faisait commencer une mention complémentaire suite au bac, donc il allait se renseigner en fait au restaurant où il devait faire sa mention complémentaire à la fin de l'été. Et du coup, j'étais obligée de lui annoncer au téléphone, même si je voulais l'annoncer de vive voix, enfin, je voulais lui annoncer en face, mais sauf qu'à ce moment-là, je pouvais vraiment pas et il fallait vraiment qu'il soit au courant. Et du coup, je lui ai dit, il était choqué, quoi. Enfin, après, il m'a rien dit de bien spécial, mais il était assez choqué. Puis, il était en compagnie de sa maman.
Il avait 19 ans, lui aussi.
Oui, ouais, on avait le même âge, quoique je crois qu'il avait un an de moins que moi, parce que j'avais redoublé ma première année au lycée. Donc, ouais, il avait un an de moins que moi. Mmh. Donc, déjà, 19 ans, c'est jeune pour un garçon. 18 ans, c'est jeune. Et en plus de ça, après, j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, mais les garçons sont matures et grandissent plus tard que les filles. Donc, du coup, c'était d'autant plus jeune pour lui, quoi. Et donc du coup, voilà, j'annonce la nouvelle, donc voilà, on se dit rien, mais voilà, au moins il sait. Et puis, franchement, je m'en rappelle plus exactement. Je sais pas, quelque chose qui m'a marqué, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de réaction en fait au téléphone. C'était plus, on va trouver une solution, enfin voilà, mais il m'a pas dit c'est mort, ou il m'a pas dit c'est super, quoi. Mmh. C'était vraiment... neutre. Et donc du coup, je passe vraiment toute ma soirée, enfin toute ma journée dans ma chambre, sur le lit, allongée sur le dos. Voilà, je pleure et je me dis, mais j'ai jamais imaginé en fait ma vie comme ça. Enfin, j'étais vraiment dans l'inconnu. Et vu que moi j'aime bien programmer, j'aime bien en fait avoir le contrôle de tout, alors là, j'étais vraiment larguée. Et mon père rentre à la maison, il frappe à la porte de ma chambre. Donc voilà, je lui réponds, et puis il ouvre la porte et puis il me fait « Je sais, t'inquiète pas, on va trouver une solution, et quelle que soit ta décision, je suis là. Mmh. » Et là, un poids énorme, voilà, comme si je respirais pour la première fois de la journée, quoi. C'était un soulagement extrême, et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis dit « Je suis vachement chanceuse, parce que je pense que certains parents... n'aurait pas réagi de cette manière-là. » Et là, mon père, il a su dire les mots exacts. Après, je pense qu'il a été guidé aussi par sa meilleure amie, qui, elle, est une femme. Et vu que j'avais pas du tout de repère, maternel à mes côtés à ce moment-là, voilà, je pense que j'ai bien fait de demander de l'aide à sa meilleure amie, quoi. Et ouais, donc du coup, le lendemain, il y a sa meilleure amie qui contacte son gynécologue, parce que je n'avais jamais vu ce médecin-là de ma vie. Donc elle contacte ce gynéco.
T'avais jamais été chez un gynéco?
Non, jamais.
Tu prenais pas la pilule ?
Non, c'est ça aussi, c'est autre chose, parce qu'en fait, j'avais mon premier copain, même si j'étais très proche de mon père, je n'ai jamais osé lui demander, tu peux me donner la carte vitale, parce que j'habitais en campagne. Je pouvais pas aller par moi-même prendre rendez-vous chez le médecin, il fallait prendre des bus, enfin, c'était vraiment compliqué pour se rendre dans la commune voisine. Et du coup, j'ai jamais osé demander à mon père la carte vitale pour faire voilà un check-up avec mon médecin, quoi. Donc c'est vrai que ça, par contre, j'ai été tout de suite claire avec mon copain. J'ai fait, écoute, voilà, faut que tu saches que je prends aucun moyen de contraception. De un, la pilule, je voyais tellement de choses que ça faisait grossir. On avait des boutons, etc. Donc du coup, ça me donnait pas envie d'en avoir. Et puis en plus de ça, voilà, je voulais absolument pas dire que mon père sache que je devenais une femme, même si bien évidemment il s'en doutait, mais voilà, avec le recul, c'est bête en fait la façon comment j'ai pensé, mais bon, j'ai pensé comme une ado et je voulais absolument pas qu'il soit au courant de ma vie en fait privée, quoi. Et du coup, j'ai préféré ne rien demander à mon père, mais par contre, j'ai été très claire avec mon copain. J'ai fait, voilà, maintenant, il y a préservatif, mais voilà, j'ai pas de moyen de contraception. Donc, il a été informé et j'ai pas fait ça, derrière son dos, quoi. Donc ça, c'était un point. Et puis après, par rapport au préservatif, donc voilà, on est jeune et parfois, on oublie, puis on se dit, de toute façon, ça arrive qu'aux autres, et puis au final, ça nous arrive, quoi. Donc, voilà pourquoi je suis tombée enceinte aussitôt. Et du coup, la meilleure amie de mon papa a réussi à prendre rendez-vous avec son gynécologue. Donc, j'ai eu rendez-vous peut-être deux jours après. Et j'ai été accompagnée de mon copain et de mon père. Donc, je rentre dans le cabinet toute seule. Et mon gynéco me demande « Bonjour ». Pourquoi vous êtes ici ? Et du coup, je lui annonce que je suis enceinte. Et puis là, il me fait, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Je lui fais une mauvaise parce que mon copain est jeune, quoi. Enfin, j'ai tout de suite parlé par rapport à mon copain, quoi. Et il me fait, vous êtes enceinte de combien de temps ? Et j'ai fait, c'est marqué 2-3 semaines sur le test, mais je sais pas. Puis il m'a demandé par rapport à mes règles. Donc, je lui ai expliqué que mes règles n'ont jamais été régulières. Donc du coup, on passe de l'autre côté, donc je m'allonge, il met son gel sur le ventre, et puis je tourne ma tête sur l'écran pour voir justement ce qu'il y a en moi. Et là, il m'a fait quelque chose qui m'a fait plus mal que l'annonce en fait de cette grossesse-là, c'est qu'il a pris l'écran, il a tourné l'écran. Et du coup, moi j'étais là pour regarder l'écran, il tourne l'écran et il me dit « c'est préférable pour vous que vous ne le voyez pas en fait ». Et j'avais 19 ans, j'avais pas prévu d'avoir un enfant, mais c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant depuis ma plus tendre enfance. Je me suis toujours dit, j'aurai un enfant jeune. Après, c'est vrai que quand ça arrive, on n'est pas prêt et on se dit pourquoi moi, mais c'est un rêve de petite fille quand même, quoi. Et c'est vrai que ce geste-là de tourner l'écran, ça m'a. J'ai même pas de mots en fait, ça m'a fait mal, quoi. Énormément. Donc du coup, il regarde et puis il me dit que je suis enceinte de 2 mois et demi et que j'ai très peu de temps pour me prendre ma décision, pour soit le garder ou procéder à l'IVG. Et il me demande en fait, il me demande quelle est ma situation, donc je lui explique. Et puis je lui dis que j'ai envie de faire une IVG parce que j'ai pas envie d'imposer ce bébé-là à mon copain et à ma famille, parce que vu qu'on est jeune et qu'on n'est pas encore autonome, et ben c'est toute la famille aussi qui est impliquée. Donc moi, j'ai pensé vraiment par rapport à tout le monde, parce que ça allait changer la vie de tout le monde. C'est pas comme si j'étais seule dans mon appart où je pouvais gérer. Là, je savais très bien que j'étais pas seule en fait, quoi. Et je voulais pas prendre égoïstement cette décision, même si c'était la principale intéressée, c'était moi, mais moi je pensais pas pour moi, je pensais pour les autres. Et donc du coup, il a pris rendez-vous pour que je puisse procéder à une IVG. Sauf que quelques jours après, en fait, j'ai les résultats du bac et je suis au rattrapage. Donc là, je commence à péter les plombs. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Il y a le ciel qui me tombe sur la tête. Je vais au rattrapage. Je suis enceinte. J'ai pas le permis encore. Enfin, il y a tout qui ne va pas, quoi. Et du coup, voilà, je suis au rattrapage. Donc, le souci, c'est que le rattrapage tombe le jour où je dois procéder à l'IVG. Donc, je me dis, si je procède à l'IVG, le rattrapage, à la limite, je peux le passer après en septembre. Donc là, on était début juillet. Et en fait, je passais beaucoup de temps avec mon copain et je lui fais, écoute, là, pendant 3-4 jours, j'ai besoin d'être toute seule. J'ai besoin de réfléchir.
Qu'est-ce qu'il pensait, lui, de l'IVG ?
Il m'avait dit, t'inquiète pas, on restera ensemble. Si on veut avoir un autre enfant, on l'aura dans quelques années. Et après, en fait, j'étais tellement en train de réfléchir qu'il m'a fait, écoute, je t'aime. Donc, prends la décision que tu veux et moi, je serai là. Donc, du coup, ça m'a soulagée aussi, même si, au fond, je savais qu'il n'était pas prêt. Mais je pense qu'il m'a dit ces mots-là, c'était pour me rassurer, pour me dire qu'il m'aimait, qu'il était là. Mais je pense qu'il n'a pas eu, à ce moment-là, conscience que sa vie allait être chamboulée. Je pense, pour un homme, c'est compliqué. Déjà, pour une femme, c'est compliqué de se dire que notre vie va être chamboulée. Et pourtant, tout se passe en nous. Mais pour un homme, c'est complètement différent. Eux, ils comprennent ça au moment où le bébé est là, en fait, dans leurs bras, quoi. Donc, du coup, il m'a dit ces mots-là. Donc, c'est vrai que ça m'a fait du bien. Ça, j'ai eu de la chance, parce que je sais que beaucoup de jeunes, seraient partis. Donc, il est resté. Mais je lui ai fait, voilà, j'ai besoin de me retrouver toute seule pour trouver une solution, quoi. Parce que je voulais procéder à l'IVG, mais au fond de moi, je voulais garder ce bébé parce que, voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un bébé. Je me suis dit, si dans quelques années, je croise des enfants, dans ma tête, je me serais dit, il aurait pu, elle ou il aurait pu... je sais pas, enfin, ça m'a... J'arrivais pas à me projeter, en fait, sans enfant. Je sais pas. Et donc, j'étais vraiment dans un tourbillon, quoi. Vraiment. Et du coup, en fait, je suis restée chez moi et j'ai posé une question à mon père. J'ai fait, écoute, papa, si t'étais à ma place, tu ferais quoi ? Et mon père m'a fait, écoute, moi, je te dirais pas parce que ça va t'influencer sur ton choix. Et je lui ai fait, écoute, au fond de moi, je sais ce que je veux, mais j'ai besoin d'avoir ton avis parce que je vis chez toi. Donc j'ai besoin d'avoir ton avis. Et il me fait, écoute, il y a quelques mois, on a récupéré un petit chaton à la poubelle. Et je m'en suis occupée jour et nuit, machin, pipette et tout ça. Et en fait, il est mort, ce chat-là. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. Il m'a fait, ça c'était un chat, t'imagines ? Et il me fait, pour moi, t'es lucide, t'es mature, t'as la tête sur les épaules, donc... Pour moi, tu vas réussir à gérer avec un enfant, que tu sois toujours avec ton copain ou pas, tu vas réussir quand même, quoi. Donc il m'a fait, vu qu'il y a quelques mois, j'ai vu ton état par rapport à un petit chaton, t'imagines si tu pars de l'hôpital après avoir procédé à une IVG, quoi. Enfin, j'imagine même pas, en fait, l'état, quoi. Et puis, en plus, une IVG, aussi jeune, même s'il y a des fois, parfois, pour d'autres personnes plus jeunes, enfin, c'est quand même assez dur, assez costaud de passer par là en commençant sa vie, en fait. Et du coup, en fait, il m'a fait pour moi, j'ai aucun doute sur ta réussite, tu vas réussir à gérer avec ton enfant. Et du coup dans ma tête, c'était bon, quoi. J'avais le dernier mot qui me disait qu'il fallait que je suive mon instinct et que je m'écoute vraiment, moi, avant de penser pour tout le monde, quoi. Donc du coup, je garde l'enfant. Donc avec mon père, on est parti chez mon copain pour annoncer ça à ses parents. Et à ce moment-là, mon copain, il savait ma décision. Et du coup, les deux étaient choqués, mais ils ont accepté. Et du coup, de là, entre-temps, j'avais passé mon rattrapage du bac. J'ai eu mon bac. Donc ça, c'était déjà fait, donc j'étais contente. Et après, voilà, je me suis... Tout le mois d'août, j'étais en pause, vraiment. Et après, en septembre, mon copain, il a commencé sa mention complémentaire suite au bac. Et on était à une heure de route, en fait. Moi, je vivais chez mon papa. Et je me suis dit, voilà, là, je peux pas trouver de travail parce que je suis enceinte. Je suis chez mon père en pleine campagne. Mon enfant va arriver pour janvier. Je fais comment ? Donc du coup, j'étais inscrite au code depuis quelques mois, Sauf que quand j'étais au lycée, j'étais à l'internat, donc le week-end, je préférais sortir avec des copains plutôt qu'aller faire mes cours de code. Donc du coup, en septembre et en octobre, j'ai fait mes cours de code. En novembre, j'ai passé mon code. Et après, tout le mois de novembre, j'ai travaillé sur la conduite. En décembre, j'ai passé mon permis. Et encore, c'était pas gagné pour passer le permis parce que mon moniteur, une fois que toutes mes heures de conduite ont été effectuées, mon moniteur, il me fait... Bah du coup tu vas attendre quelques mois pour passer ton permis. Je suis bah pourquoi? Ah bah parce que c'est bouché là, on peut pas, voilà.
Il n'y a pas de place.
Et j'ai fait non mais moi j'ai pas le temps en fait. Il me fait bah pourquoi t'as pas le temps? Je suis bah non mais moi il faut que j'ai mon permis avant janvier. C'est impératif. Il me fait bah pourquoi? Bah je suis enceinte, là je vais accoucher dans 2 mois en fait. Quoi, t'es enceinte et tout? Et en fait quand je passais mes cours de conduite, je mettais des robes mais très voilà, XXL, enfin bref, je cachais à mort mon ventre, et même si j'avais pas de gros ventre, et du coup je lui sors ça et il était choqué, complet. Et du coup il me fait ok, bah je vais gérer et tout ça. Et du coup il a réussi à m'avoir une date pour. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était malade. Et du coup, par chance, j'ai eu une date début décembre. J'ai eu mon permis. Puis après, un mois après, j'ai accouché. Donc, c'était vraiment crescendo. Mais je voulais tellement être autonome que je me suis dit, là, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'avoir mon petit chez moi. Mais au moins, il faut que je puisse me déplacer pour aller chez le pédiatre, etc. Pour mon enfant. Et comme ça, au moins, je vais pas dépendre d'un tel, quoi. Je peux faire ça toute seule.
Et comment elle s'est passée ta grossesse ?
Alors ma grossesse, nickel.
Ouais.
Franchement nickel, aucun symptôme. Je courais même 2 jours avant d'accoucher. Enfin bref, franchement c'était super. Et puis j'ai même... du coup en fait mon fils était prévu pour le 24 janvier. Et une semaine avant, je vais voir mon gynécologue pour faire un contrôle. Et puis là, il fait une tête, mais vraiment une tête, ça m'a horrifiée, quoi. Et j'ai fait, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis il me parlait pas, il regardait l'écran et tout, mais limite paniqué, quoi. Donc moi, j'étais pas bien, je me disais, c'est bon, je vais accoucher d'un bébé, d'un bébé mort et tout, c'est pas possible, quoi. Et en fait, la poche, alors je connais pas les termes, mais il y avait plus du tout d'eau dans la poche, en fait. Et du coup... par chance, j'ai eu ce rendez-vous-là une semaine avant la date de l'accouchement. Et il m'a fait, ce soir, vous rentrez à la maternité. On va vous déclencher parce que là, le bébé, il n'y a plus d'eau, quoi. Et donc, du coup, je rentre chez moi, je prépare ma valise. Je vais à l'hôpital et mon copain me rejoint. Donc en fait, je suis rentrée à l'hôpital à 19h le 16 janvier. Et donc je m'endors et tout ça. Donc on me dit qu'on va venir me réveiller vers 5h pour faire un monitoring et puis pour faire pour vérifier l'école, etc. Et puis pour faire le déclenchement. Et en fait, toute la nuit, je gigote, j'ai mal au ventre et tout. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, à 5h du matin, on me réveille, donc je vais dans la salle et tout, donc on vérifie tout ça. Et en fait, j'étais déjà ouverte à 3, je crois, 3, 4, quelque chose comme ça. Et puis tout le monde, la sage-femme me regarde et puis elle me fait « Mais vous avez prévenu personne cette nuit et tout ?» Je sais pas pourquoi, parce que vous êtes déjà ouverte, machin. Puis elle m'a fait « Vous avez pas eu mal cette nuit ?» Je fais « Si, j'ai eu très mal au ventre. » Bah oui, bah c'est ça les contractions. Mmh. Ah d'accord. En fait, j'ai tellement l'habitude de prendre sur moi que on m'a jamais dit en fait tout ça. Et vu que j'étais pas du tout proche de ma mère à cette période de ma vie, bah du coup j'étais complètement j'étais paumée, quoi. Donc du coup à 5h on me met le monitoring. À 7h, je vais dans la salle d'accouchement, je crois que c'est comme ça, et j'ai accouché à 11h31. Donc du coup, en 5h, c'était fait et ça s'est super bien passé. C'est juste à la fin, j'avais trop mal, vraiment impossible de faire quoi que ce soit. Donc du coup, le gynéco était censé venir avec des spatules. Et là, je le vois arriver avec 2 grandes spatules. Et j'ai eu la peur de ma vie. Et d'un coup, il est sorti, le bébé. Je sais pas comment. Mais du coup, voilà, je... J'ai fait une péridurale, mais ça n'a pas fonctionné parce que... il m'a raté 3 fois, je crois. Il n'arrivait pas. Je sais pas ce qu'il a fait, mais de toute façon, à ce moment-là, j'étais tellement focus sur le bébé que je comprenais pas tout ce qui se passait autour de moi. Après, c'est vrai que moi, j'avais naïvement, je pensais que j'allais retrouver ce côté un peu baby boom que je regardais sur TF1 à la maternité, alors que pas du tout en fait. Moi, j'ai pas du tout aimé mon séjour là-bas parce que déjà, quand on regarde mon dossier, ah, vous avez 19 ans, vous avez l'âge de ma fille, bah, vous êtes jeune et tout. Donc, déjà, voilà. Après, on ose me dire, voilà, pendant ma grossesse, quand je faisais par exemple les cours à préparation à l'accouchement, j'étais la seule femme toute seule parce que toutes les autres, elles étaient avec leurs compagnons, elles étaient plus âgées que moi. Et moi, j'étais là toute seule, je comprenais rien. Moi, j'allais donner le biberon, j'allais pas donner le sein. Et du coup, l'infirmière a osé me reprendre sur ça devant tout le monde en me disant « Ah bon, vous donnez pas le sein et tout ?» Donc vraiment le jugement gratuit. Et après, pareil, elle nous avait, elle avait demandé quel biberon on allait prendre. Et du coup, moi, je lui ai dit que je prenais des biberons en verre Raymond. Donc c'était de la bonne qualité, 10 € le biberon, voilà. Et elle m'a jugée parce qu'elle m'a fait « Bah ça va, vous avez les moyens, vous, de vous offrir un biberon comme ça. Mais vous allez tout de suite les ramener, vous allez prendre des biberons en plastique. » Enfin voilà, quoi, c'était vraiment pas sympa du tout, quoi. Donc moi, ça m'a un peu sciée. Déjà que j'étais vraiment paumée par tout ce qui m'arrivait, enfin, toute ma vie se changeait, voilà. Et du coup,
On t'a proposé un suivi psychologique pendant toute cette
période ? Du tout. Non, du tout. Après, c'est vrai que quand j'étais... Mon gynécologue, il était vraiment super. Et franchement, je le remercie parce qu'il était extrêmement bienveillant. Ça se voyait qu'il n'était pas du tout dans le jugement. Et c'est le seul, en fait, de toutes les personnes que j'ai côtoyées pendant cette période-là. C'est le seul qui ne m'a pas jugée dans le milieu médical, quoi. Parce que les autres, ça se voyait, je le sentais, on ressent ces choses-là. Lui, il a été extrêmement bienveillant. Parce que, en fait, je disais à mon gynécologue, voilà, il faut que j'aille au cours d'accouchement, de préparation à l'accouchement. Le problème, c'est que moi, j'ai mes cours. À ce moment-là, j'avais mes cours de conduite. Et les deux étaient extrêmement importants. Je ne pouvais pas négliger l'un ou l'autre, en fait. Et du coup, quand j'avais appelé une infirmière pour justement placer les rendez-vous pour aller au cours de préparation à l'accouchement, l'infirmière m'a dit au téléphone « Mais écoutez, là ça suffit, vous ne pouvez pas venir tel jour, tel jour, tel jour, il faut faire un choix, c'est soit le permis ou soit c'est les cours préparation à l'accouchement. » Et puis elle me disait ouais, « Ma mère, elle habite dans la commune où vous habitez, on peut se déplacer en bus et tout. » Enfin, elle m'engueulait, quoi, mais j'étais choquée, quoi.
Tu lui demandais parce que t'étais jeune.
Bah oui, voilà, c'est ça. Mais j'étais... franchement, j'étais bouche bée, je n'osais rien dire parce que je ne m'attendais tellement pas à ça. Et du coup, un jour, voilà, j'arrive au bureau du gynéco et j'étais en pleurs. J'ai fait « Mais je ne pourrai jamais réussir parce que... on me juge et parce que je peux pas passer mon permis parce qu'il y a les cours préparation à l'accouchement. Moi, les deux sont importants. J'ai besoin d'avoir mon permis pour pouvoir gérer après, dès que j'aurai mon enfant avec moi, quoi. » Et du coup, c'est vrai qu'il m'a écouté direct et il a fait le numéro et puis il a dit ce qu'il pensait justement à cette ouais. Dame-là. Et il a fait « Écoutez, vous allez trouver tout de suite... un arrangement, mais Madame Deschamps, il faut qu'elle puisse faire les deux parce que c'est important pour elle, parce qu'elle a 19 ans et il faut qu'elle se débrouille et moi je suis là, quoi. Donc du coup, ça m'a énormément, ça m'a mis du baume au cœur parce que en moins quelqu'un qui n'était pas dans le jugement et qui me comprenait, quoi.
Et au niveau de ton entourage, en dehors de ta famille et de ton chéri,
tes amis, du coup, je vivais chez mon papa et mon petit frère qui avait 4 ans de moins que moi. Et en fait, un soir, quand je regardais la télé, je le regarde, puis je fais « Oh, en fait, je suis enceinte. » Et du coup, lui, il s'étouffait, il me fait « Quoi ?» et tout. Donc du coup, je lui annonce ça vraiment comme ça. Donc voilà, il est no common, quoi, il n'y a aucun problème. Et puis après, ma mère, je lui avais quand même annoncé, donc elle était D'un côté, elle était contente, et après, 2-3 jours après, elle me disait « Ouais, mais je le sens pas avec ton copain, ça va être compliqué. » Ou alors, ma mère, elle a fait 8 fausses couches, je crois, avant de m'avoir. Donc, je pensais qu'elle allait être heureuse que moi, entre guillemets, j'ai un enfant tôt, comme ça. Et en fait, elle m'a suggéré de faire après un avortement, etc. Enfin, ma mère, c'était très, très bancale, quoi. J'ai pas de mots, en fait, à dire par rapport à l'échange que j'ai eu avec elle à ce moment-là. Et après, pour mes amis, donc du coup, il y a une copine, ma meilleure amie, qui est la marraine, justement, de mon fils. Elle était là. Oh là là, c'est une fille ou un garçon, quel prénom et tout. Enfin, vraiment... adorable. Et après, les copains du lycée nous disaient, avec mon copain, vous êtes jeune, quoi, la bêtise que vous faites et tout, vous avez gâché votre vie, machin. Enfin, voilà, tous les retours bateaux qu'on peut avoir, quoi. Donc c'est vrai que j'étais... Parce que beaucoup se parlaient vraiment dans mon dos. Donc personne ne venait me voir directement me disant « c'est vrai que t'es enceinte, c'est vrai qu'il y a ci, il y a ça ». Non, j'entendais toujours des messes basses et tout, donc c'était compliqué. Mais après, à ce moment-là, j'avais tellement d'autres... À 19 ans, même avant que je tombe enceinte, en fait, je voulais plus de cette vie. Je voulais plus être jeune, quoi. Je voulais vraiment rentrer dans la vie active, je voulais vraiment faire quelque chose de ma vie, quelque chose de concret. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'avec le recul... Un enfant, enfin, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, et même au meilleur moment, parce que du coup, j'ai su qui étaient les vrais amis, j'ai vu qui était vraiment là pour moi, je me suis débrouillée à ce moment-là, et je suis très contente d'avoir galéré, parce que je me dis, finalement, les galères, ça fait tellement la force maintenant, enfin, d'aujourd'hui, donc du coup, je repasserai exactement dans toutes ces étapes-là, parce que je suis contente d'être arrivée là, et puis je suis contente d'avoir mon enfant, et puis pour plus tard, je trouve que c'est une bonne leçon de vie que je pourrais raconter après à mon fils, justement, pour ses épreuves à lui, quoi. Donc du coup, non, au moment où vraiment ça se passait pas bien avec les personnes qui m'entouraient, je réfléchissais pas, et je... Parce que je l'ai nexté, quoi.
Tu disais tout à l'heure que tu mettais des robes très amples, un peu comme...
Ouais, parce que je n'osais pas aller dans les rayons de femmes enceintes, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une étiquette sur mon front, où c'était marqué « Marie, 19 ans, vit chez son père, n'a pas de boulot », voilà, quoi. Et c'est vrai que je me sentais pas crédible, en fait. J'avais l'impression de jouer la poupée. Je me sentais absolument pas crédible, et même si je voyais mon ventre évoluer au fur et à mesure, et encore, il est quand même resté relativement petit, j'avais l'impression que j'allais jouer à dinette. Par exemple, chez mon père, ma chambre d'ado, on est parti à Ikea, on a pris un clic-clac, parce que j'avais une petite chambre, on n'avait pas d'autres pièces, en fait, pour mettre la chambre du bébé, donc il fallait que je puisse faire un mini, entre guillemets, studio dans ma chambre d'ado. Donc là, t'as toute la phase où il faut enlever les posters de ton chanteur préféré, il faut que t'enlèves tous les rêves que t'avais, machin, et tout ça, sur ton mur, t'enlèves tout ça, tu mets des cadres d'éléphants, de pirates, tu repeins, enfin voilà. Et franchement, en fait, j'ai eu toute cette transformation-là, je sais pas comment l'expliquer, parce que quand je le raconte, je suis encore dedans, ça me fait bizarre, mais ouais, je me sentais pas crédible, parce que j'avais l'impression de jouer... à la dinette. J'ai tellement rêvé d'avoir un enfant que je rêvais de la famille, le papa, la maman. Je me voyais vraiment, je m'imaginais enceinte, mais avec des talons et tout. Enfin, vraiment la femme parfaite qu'on voit dans les films et tout ça. Et c'est vrai que en étant en basket avec ses converses enceintes dans les rayons de femmes de maternité, t'es complètement larguée. Tu vas dans le rayon après avec des vêtements plus sympas qui sont pour les femmes, tu te dis ah ouais, je peux même pas porter ça et tout, parce que moi j'ai un gros vide et tout. Enfin bref, non, j'étais vraiment j'étais pas à ma place, quoi. Je savais que j'étais enceinte sans le savoir, quoi. Puis j'avais tellement de il fallait tellement que ma vie il fallait que je prenne en main ma vie, en fait. Donc j'ai pas eu le temps de savourer cette grossesse là parce que il fallait que je mette tout en place, justement, pour être présente au moment où mon bébé allait venir.
Et alors, comment s'est passé le retour à la maison après l'accouchement ?
Alors, l'accouchement, donc déjà, j'ai refusé toute visite, hormis les parents et frères et sœurs. Et c'est vrai que je ne voulais absolument voir personne. J'ai eu Léandro dans les bras. Je savais que c'était mon enfant. Mais en fait, c'est drôle parce que je l'avais imaginé différemment. Et du coup, je me dis, c'est mon fils. Mais je n'avais pas compris, en fait, sur le moment. Je savais que je l'aimais. Je savais qu'il y avait un lien entre lui et moi. Mais j'avais l'image de la poupée, en fait. Enfin, c'est très bizarre, mais voilà, je comprenais pas encore, quoi. Et c'est vrai que j'étais, voilà, comme toute femme qui accouche, extrêmement fatiguée. Et en plus, on m'avait recousu, donc j'avais très très mal. J'ai mis du temps à marcher correctement et tout ça. Et du coup, voilà, je prépare mes affaires pour partir de la maternité avec mon copain. Donc, ce qui m'a frustrée aussi, c'est que mon copain, bah, bien évidemment, n'avait pas le permis. Et du coup, c'est mon père qui est venu nous récupérer à la maternité, tous les trois. Et le fait, en fait, de rentrer dans la voiture, que mon père soit au volant, mon copain soit à l'avant, moi, je suis derrière avec le bébé, bah, ça m'a énervée parce que je me suis dit, voilà, j'ai toujours rêvé, en fait... le moment où c'est mon mari qui vient me chercher à la maternité, où on rentre en voiture dans notre maison et tout ça, là je me dis, purée, en fait, j'ai fait quoi ? Je vais rentrer chez moi, dans ma chambre d'ado que j'ai réaménagée. Et voilà, à ce moment-là, j'étais triste de ne pas avoir ma maison de femme, en fait, pour être d'autant plus crédible envers les autres, et même, je pense, envers moi, devant ma propre glace, en fait, sur le fait que je suis maman maintenant, quoi. Et du coup, c'est vrai que je rentre chez moi. Donc là, c'est vrai que ça craint un peu, mais je m'attendais un peu comme les films à l'américaine. Je m'attendais à voir, tu vois, des ballons en mode welcome et tout, un bouquet de fleurs, tu vois. J'étais vraiment naïve. Et du coup, non, je rentre et puis je vois ma chambre d'ado avec le bordel. Et moi, je suis maniaque, enfin, pas trop maniaque, mais je veux que ce soit un moins ordonné. Et puis là, c'était pas le cas. Donc en fait, mon copain est rentré dans ma chambre. J'ai laissé le bébé parce qu'il dormait. Et en fait, je suis allée dans ma voiture et j'ai passé aspirateur, quoi. Et pourtant, je pouvais plus marcher. Mais voilà, je passais aspirateur dans ma voiture parce que ma voiture était sale. C'était la mienne que mon père est venu me chercher avec ma voiture. Mais justement, voilà, tout le monde rentre avec ses pieds sales et tout. Puis vu que c'est la première voiture, on veut qu'elle soit parfaite. Donc du coup... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'aspirateur et puis je suis allée dehors. Il y avait du vent, on était en janvier, c'est pas grave, limite en t-shirt. Et puis j'étais en train de faire l'aspirateur dans ma voiture. Mais je pense que j'avais besoin de passer mes nerfs au lieu de faire quelque chose, j'ai fait ça, quoi. Donc voilà, j'ai passé mes nerfs dans le nettoyage de ma voiture. Après, j'ai fait la lessive et tout ça parce que ma chambre, c'était un foutoir. Et c'est vrai que voilà, le temps de s'adapter, de réorganiser notre quotidien, d'avoir un bébé, d'être avec son copain dans sa chambre, mais en même temps, t'as mon père dans l'autre chambre d'à côté, t'as mon frère de l'autre côté, enfin, on n'est pas chez soi. C'était très, très... Enfin...
Donc ton copain, il a emménagé chez...
Non, en fait, il venait... Parce que là, il avait un mois de congé, justement, au mois de janvier, parce que son restaurant fermait. Donc c'est tombé vraiment au bon moment. Et donc pendant un mois, il faisait... Il switchait entre chez ses parents et puis chez moi pour qu'il soit là avec moi et son fils. Et puis du coup, voilà, on a fait ça. Puis après, on se voyait voilà, pendant ces jours de repos. Après, à partir de février, quand il a repris le travail, quoi.
Donc, et lui, comment il a créé le lien alors avec...
Il était là. Franchement, il était là. Il faisait les nuits aussi. Bon, il fallait quand même que je le pousse pour qu'il se réveille parce que c'est une marmotte. Mais du coup, non, il faisait vraiment son travail, enfin son job de papa, et il était bienveillant, enfin il... Non, enfin je voyais pas que... Enfin, je trouvais pas que ça le dérangeait à ce moment-là, quoi, non, il était...
Parce que tu pensais qu'il allait pas être prêt, mais est-ce que t'as été surprise, justement, du fait qu'il le soit peut-être...
Après, c'est vrai que je lui disais, enfin, j'ai... Même avant d'avoir notre bébé, j'ai été très maternelle avec lui, parce que lui, c'est le dernier de la fratrie, moi, je suis la première... Et lui, ses parents sont toujours ensemble. Moi, j'ai mon passé par rapport au divorce des miens. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même vision de la vie. Et lui, il était à ce moment-là encore dans sa bulle, de le petit dernier et tout ça. Et moi, j'étais déjà dans la phase où je suis une femme, en fait. Donc, c'est vrai que il fallait que je le booste un petit peu. Après, oui, il faisait des choses par lui-même et j'étais quand même chanceuse de l'avoir près de moi. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment senti en fait un décalage au moment où on a emménagé ensemble, quoi.
Donc c'était au bout de combien de temps ?
Alors, donc du coup, j'ai accouché en janvier. Donc pendant 2 mois et demi, je me suis occupée de mon bébé, voilà. Au bout de 2 mois et demi, mon papa me fait, voilà, il faut que tu trouves un travail, etc. Puis moi, oui, bah, il n'y a que 2 mois et demi. Mmh. Voilà, c'est vrai qu'il fallait, je savais qu'il fallait que je me booste. Mais c'est vrai que quand tu as un enfant, 2 mois et demi, tu trouves ça super tôt, en fait, mmh. de le lâcher pour pouvoir reprendre ta vie active. Et du coup, voilà, j'ai trouvé... mon père m'a dit, bah, tiens, dans la ville à côté, il y a un nouveau restaurant, tente pour faire quelques extras, et puis pourquoi pas avoir le job, quoi. Et du coup, je fais, ouais, t'as raison. Donc du coup, je suis partie dans cette ville-là, donc avec ma voiture, avec mon fils à l'arrière. Je suis allée, comment dire, frapper à la porte de ce restaurant-là avec mon bébé dans les bras et puis les CV dans l'autre. J'ai été cash parce que, voilà, il fallait que je dise que je suis maman. Il fallait que je lui raconte un minimum ma vie actuelle pour vraiment qu'il puisse m'embaucher. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas réfléchi. Je suis allée comme ça. Et puis du coup, le monsieur, il me dit « Oui, oui, ben, on vient d'ouvrir. On a besoin de quelqu'un pour cet été et tout. » Et puis même pour faire quelques extras, etc. Donc du coup, voilà, il me voit avec mon enfant, il prend mon CV, enfin vraiment super sympa. Et bah, je rentre chez moi, puis quelques jours après, on me dit, bon voilà, on veut bien te prendre à l'essai, mais ça va se passer le dimanche, le jour de la fête des mères. Alors j'étais frustrée parce que d'un côté j'étais contente parce que j'avais un extra, je pouvais voilà, prouver de quoi j'étais capable, mais en même temps j'étais vachement frustrée parce que bah voilà, c'était le jour de la fête des mères et puis bah c'était super important, c'était ma première journée quoi. Mmh. Et du coup bah là je me suis dit bon bah de toute façon il faut que j'y aille quoi, c'est pour mon avenir de moi et mon bébé, donc de toute façon à 3 mois il va pas se rappeler de la première fête des mères, donc je me suis dit c'est pas grave, j'y vais quoi. Donc du coup j'y suis allée. Ça s'est bien passé, donc j'ai fait plusieurs extras comme ça jusqu'au mois de juin. Et après, au mois de juin, on m'a dit, bah voilà, on te prend pour cet été. Donc j'ai commencé fin juin et j'ai terminé le 1er septembre. Donc en restauration, en travaillant de 10h à 14h, puis après en reprenant à 19h et finir à 23h, c'est compliqué avec un bébé. Et mon père, à ce moment-là, travaillait à l'aéroport de Brest, du coup, et il travaillait de nuit. Donc il commençait ses nuits vers 11h30, je crois, du soir. Et donc du coup j'ai trouvé une nourrice, donc la nourrice elle gardait mon enfant en fait jusqu'à ce que je revienne après le service du midi. Donc je récupérais mon fils à 14h après mon service, je m'occupais de lui en lui faisant voilà, son goûter, son bain, et puis je préparais le repas pour le soir, et puis je donnais à mon père après le bébé avant de partir à 19h pour reprendre mon service du soir. Et du coup voilà, mon père en fait me relayait en fait le soir pour garder Léandro, et comme ça je pouvais vraiment gérer mon travail en restauration. Donc ce qui était cool, c'est que bah en restauration bah j'ai pu perdre du poids. Bah j'en avais pas pris énorme, j'en avais pris 6 ou 7 je crois, mais du coup c'est vrai que le fait de courir partout et tout, bah c'était voilà, j'ai trouvé le bon côté de la chose. Et puis en plus de ça, après il y a les pourboires en plus du salaire, donc du coup j'ai pu vraiment me refaire une comment dire mon compte en banque. Et du coup en même temps de gérer mon enfant et puis le travail en restauration, et ben j'ai trouvé un appartement sur Brest en fait. Et mon copain avait trouvé un job pareil dans un restaurant à Brest, et lui c'était bon, c'était signé pour un CDI. Et du coup j'ai fait ok, bah écoute, moi j'ai trouvé un appartement, et du coup j'ai fini ma dernière journée dans ce restaurant là, c'était le 1er septembre. Et puis après le 1er septembre, et ben je déménageais, j'ai fait mes cartons une journée, et puis je suis partie sur Brest quoi. Donc du coup voilà, on arrive à Brest, dans notre premier appart. Donc là, j'étais trop contente déjà d'avoir une plus grande superficie que ma chambre d'ado. Trop contente d'avoir une pièce pour faire le petit cocon de Léandro voilà, avoir sa propre chambre et tout ça, franchement, là j'étais bien. Après, c'est vrai que on a cohabité 4 mois seulement. On s'est séparés, on a emménagé en septembre et en janvier on s'est séparés. Parce que voilà, c'était pas du tout l'homme que je voulais en fait dans ma vie. Parce que voilà, il a été mon premier amour, c'est l'homme avec qui j'ai découvert mes premières fois. Et sauf que voilà, c'était pas l'homme que je voulais dans ma vie tous les jours. C'était pas voilà, la vie a fait que d'un commun accord, et on s'est quitté. Et
ça t'a fait peur, toi, de te retrouver maman solo
Et ben même pas. J'ai même pas réfléchi parce qu'en fait, je me suis retrouvée le 1er janvier, en fait, je me suis retrouvée toute seule à la maison parce que lui, il travaillait. Et je suis tombée par terre dans la cuisine en pleurs. Il y avait mon petit garçon qui allait avoir 1 an. Et je me suis dit, mais c'est pas la vie que je veux. Parce que oui, j'ai envie d'avoir ma vie, ma petite routine, etc. Mais c'était pas... je sentais que c'était pas l'homme qu'il me fallait. Et je voulais pas m'enfermer dans ce petit quotidien. Voilà, que tout le monde a, mais le quotidien basique, en fait. Je voulais pas, en fait. Moi, je voulais vivre des choses dans ma vie. Et c'est vrai que, voilà, je me sentais prisonnière, en fait. Et en fait, quand je me suis écroulée et quand j'ai pleuré, j'ai vu mon fils. Et en fait, à travers ses yeux, bon, c'est très, très con, mais à travers ses yeux, je me suis dit que ça irait, quoi. Parce qu'il était là, en fait, tout simplement. Et que maintenant, c'était lui le moteur de ma vie, quoi. Et du coup, tant qu'il est là, ça ira. Et je l'ai senti comme ça. Et en fait... 2-3 jours après, j'ai parlé à mon copain et j'ai fait... voilà, plus rien ne va. Parce que depuis que j'ai Léandro, c'est vrai que j'avais tellement peur de... J'avais tellement cette phobie de ne pas être une bonne maman que j'ai été que maman. Et je l'ai complètement oublié. Et ça, je le sais, c'est mon tort. Parce que je suis pas en lui. Donc du coup, je peux pas savoir ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Puis c'est pas quelqu'un qui parlait énormément. Mais voilà, je pense qu'il a clairement ressenti qu'il était à l'écart et que c'était plus du tout lui l'homme de ma vie au final, que c'était mon fils, quoi.
Et alors, comment t'as trouvé ton rythme toute seule avec ton petit bout de chou?
Et ben j'ai fait au mieux avec mon travail et avec lui à mes côtés. Après, ce qui a été compliqué, c'était le fait de ne pas avoir ma maman aussi présente, parce que c'est vrai que quand on débute comme ça dans le milieu de la maternité, on a envie d'avoir des conseils de sa propre mère. Et elle était présente, mais pas autant que je l'aurais souhaité. C'est vrai que parfois, il y a des mots MAUX que j'aurais aimé lui dire, sauf que voilà, je m'abstenais. Donc j'ai décidé de mettre tous mes mots par écrit, en fait, sur l'ordinateur. J'ai... entre mon boulot et mon fils, dès que mon fils partait à la sieste ou dès qu'il dormait le soir, et ben je passais voilà mes soirées entières ou le peu de temps que j'avais pour moi à écrire en fait tout ce que j'avais sur le cœur, parce que j'avais besoin de me confier à moi-même et en même temps j'avais besoin d'expliquer mon histoire, non pas pour avoir de la pitié ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment pour expliquer à Léandro tout ce qui se passait à ce moment-là, en fait. Non, parce que c'est sa vie, au final, le début de sa vie. Et j'avais besoin, en fait, d'écrire tout ça et de mettre ça sur papier pour qu'il sache que, même si plus tard, parce que je ne sais pas de quoi est fait demain, par exemple, je pars dans les extrêmes, mais si demain je suis à la rue, j'ai pas envie qu'il pense que c'est de sa faute parce qu'il est arrivé trop tôt. Mmh. Parce que c'est ma décision, justement, de l'avoir aussitôt, enfin, de l'avoir eu aussitôt. Et du coup, le fait de tout expliquer de A à Z, comme ça, si un jour j'ai pas le temps de lui expliquer, ou si je pars trop tôt, eh ben, il a ça. Et je dis pas que c'est son manuel, mais au moins, ouais, il a le début de son histoire, en fait, par écrit. Et il saura pratiquement tout, déjà. Donc, je veux qu'il commence sa vie sereinement et qu'il enlève, si un jour il a des doutes, qu'il enlève justement ces doutes-là. Et ses réponses sera écrit, en fait.
Et du coup, toutes ces feuilles que tu as écrites, toutes ces pages que tu as écrites, tu les as transformés en livres.
Oui.
Donc ça s'appelle « Il était une fois une maman ».
Tout à fait. J'ai toujours adoré écrire depuis très jeune. J'écrivais des chansons, enfin j'ai toujours aimé l'écriture. Et c'est vrai que quand mes parents se sont séparés, je voulais écrire un livre par rapport à leur divorce qui a été très compliqué. Et finalement, en fait, eh ben, quand je me suis posée un soir voilà, avec mon gros ventre, avec tous mes doutes en tête, eh ben, j'avais besoin de vider mon sac, sauf que j'avais personne avec qui parler. Et du coup, je me suis dit, je vais parler à moi-même en fait. Et je vais me vider en même temps, donc ça sera ma petite thérapie. Et j'ai pas besoin de sortir un chèque en plus, donc c'est plutôt cool. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Et finalement, au fur et à mesure de mes écrits, ben, ça a fait quand même pas mal de pages. Et je me suis lancée dans cette folle aventure, quoi. Donc, je me suis dit, ben voilà, qui ne tente rien à rien. Donc, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Et du coup, j'ai fait ça sur Amazon, donc en auto-édition. Et du coup, voilà, il a été vendu quelques centaines d'exemplaires, donc c'est plutôt bien. Et après, voilà, c'est vrai que le but de ma vie, c'est de pouvoir signer avec une maison d'édition, je pense, pour pouvoir justement avoir la crédibilité d'être une auteure et puis d'être vraiment complètement une maman.
Mmh. Est-ce que tu as rencontré d'autres mamans, d'autres jeunes mamans ?
Alors, au lycée, il y avait une fille qui était dans ma classe et elle est tombée enceinte justement à 15 ans. 15-16 ans, il me semble, on était en seconde. Et c'est vrai que tous les regards qu'elle a eus, j'étais vraiment horrifiée parce que les gens jugent, mais ils ne connaissent absolument pas l'histoire de la personne. Pour moi, ça m'a vraiment coupé le souffle. Et du coup, c'était au moment en fait où la série Clem, je sais pas si tu connais, sur TF1 est sortie. C'est la jeune fille qui tombe enceinte à 16 ans. Et du coup, tout le monde adorait cette série-là. Mais quand ça arrive en vrai, en fait, c'est pas possible. On préfère la fiction quand la jeune fille tombe enceinte à 16 ans, mais par contre, pour de vrai, ça craint, quoi. Mmh. Et du coup, en fait, moi, j'étais là, j'étais abasourdie de voir tout ça, quoi. Et le fait d'être tombée à 19 ans, c'est quand même relativement tard comparé à elle. Et ben, j'ai eu quand même moins de regards comme ça, mais j'en ai eu. Et du coup, je me suis dit... ça va pas se passer comme ça, quoi. Donc du coup, j'ai préféré raconter mon histoire par écrit, et comme ça, si on veut faire sa curieuse ou son curieux, ben au moins ils connaissent la véritable histoire, et puis après ils peuvent dire tout et n'importe quoi. L'histoire, elle est là, quoi.
Mmh. Et l'idée, c'est de transmettre aussi à ces jeunes femmes aussi, peut-être, qui ont des enfants tôt.
Oui, tout à fait. Bah, c'est justement pour parce que moi, à l'époque, j'aurais aimé avoir la vie d'une personne qui est passée par là, en fait, voir comment elle a géré tout ce chamboulement, en fait. Et du coup, j'aimerais tendre la main de cette façon-là à travers un bouquin pour pouvoir dire à toutes ces femmes qui vont tomber enceintes avant 20 ans que le regard des autres, ne vous en préoccupez pas. Et surtout, si des personnes sont vachement néfastes avec vous, prenez-le du bon côté, parce que c'est ce qui va vous forger et c'est ce qui fera de vous justement une bonne mère, parce que vous allez réussir, quoi, tout simplement, quoi.
Qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Oh là là, bah, toute ma vie. Non, la vision de ma... Je pense que pour tout le monde, c'est la même chose. Hein. La vision de la vie, on la voit complètement différemment. Et pour moi, l'essentiel, c'est que mon fils soit en bonne santé. Donc je pense que tout le monde est d'accord avec ça, d'avoir mon fils en bonne santé, un toit et un travail. Tant que j'ai ça, je sais que la base de ma vie, elle est là, en fait. Après, tout le reste, c'est que du plus. Donc du coup, je suis vachement reconnaissante de l'avoir.
Et tu me disais que t'avais eu un switch, du coup, entre la vie d'adolescente et la vie de maman,
ouais.
Et pas forcément la vie de femme.
Non.
Comment t'as eu le déclic de voir justement que t'avais un peu mis de côté ta vie de femme, complètement mis de côté d'ailleurs?
Parce que j'étais triste, en fait, parce que j'étais sans vie complètement. Même si j'avais mon fils, un job, une maison, que j'avais écrit mon livre, bon, au final, je me suis regardée un soir dans la glace et je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est quoi? Il n'y avait pas de but dans ma vie, parce que J'étais soit la barista que je suis, parce que je travaille dans un coffee shop, donc je suis barista, donc la barista qui est avenante, qui est joyeuse, qui a toujours le sourire, etc. Et puis il y a la maman qui est là, qui fait tout pour assurer. Mais au final, quand je suis pas au travail et quand j'ai pas mon fils, je suis qui ? Et je me suis vraiment posé la question, j'ai fait, mais en fait, la Marie n'existe pas. Et depuis que j'ai compris ça, voilà, comme ça, par enchantement, et ben du coup, voilà, je me suis. Je sais que maintenant je suis une femme et je prends du temps pour moi. Et avant, je culpabilisais le fait d'aller dans un magasin et de m'acheter une robe et de ne rien acheter à mon enfant. Bah, maintenant, bah, je m'en fiche en fait. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est que je le fais avec plaisir. Et je me dis, bah, la prochaine fois, j'irai faire un peu de shopping avec mon enfant. Et à ce moment-là, je lui prendrai des vêtements. Et c'est plein de petites choses comme ça en fait que j'étais stressée. Mais la boule au ventre, le fait juste d'avoir acheté des vêtements que pour moi et pas pour mon fils, quoi. Je me sentais en fait une mère indigne, quoi. Et maintenant, vu que je sais que au final je suis une personne à part entière, et ben je vis beaucoup mieux la chose. Et j'espère continuer dans cette lancée. Et le prochain objectif de ma vie, c'est de pouvoir être justement la femme de quelqu'un, en fait, tout simplement, parce que je me sens prête, parce qu'avant c'était un besoin d'avoir une personne dans ma vie, et maintenant j'ai juste envie de la voir, parce que j'ai envie, en fait, j'ai plus besoin, et ça c'est toute la différence, parce que j'ai envie de partager ce que je vis de mon quotidien, en fait, avec une personne que j'aime, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman brestoise ?
Alors, c'est une maman qui n'oublie jamais son parapluie quand elle sort avec son fils à l'extérieur.
Quel est ton endroit kids friendly préféré ?
Alors à Brest, même si j'habite à côté de la mer, je vais très rarement à la mer. Je n'aime pas ça. Ouais, je suis plutôt une femme qui aime les lacs, les forêts et tout ça. Donc ça tombe bien parce que j'ai une petite maison qui est à côté d'une petite forêt. Et en fait, ce qu'on fait avec Léandro, c'est que dès qu'il fait beau, parce que c'est rare à Brest, et ben dès qu'il fait beau, on va se promener. Puis on aime bien se promener, on prend du vieux pain, on va donner du pain aux canards, et on prend un grand sac poubelle et puis on ramasse les déchets qu'on trouve sur notre chemin dans la forêt. Donc comme ça, ça fait une petite promenade et en même temps un petit clin d'œil pour la planète.
Quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, rien que pour moi, et ben ça équivaut à mes projets perso, enfin professionnels. C'est vraiment de pouvoir publier mon livre en maison, avec une maison d'édition. Ça, c'est vraiment ma concrétisation de cette année. J'ai vraiment envie de faire ça. Et puis vraiment aider d'autres personnes. Je ne sais pas comment, mais aider à ma façon d'autres jeunes mamans. Voilà, je veux faire le bien autour de moi. J'ai pas envie de paraître trop nunuche, mais c'est ça. C'est vraiment... l'objectif, c'est le livre. Et je pense qu'une fois que j'aurai atteint cet objectif-là, je serai bien. Et projet en famille, ben déjà conserver ce que j'ai, parce que c'est déjà précieux, énormément. Et puis bien évidemment, trouver un homme qui pourrait être ma chaussure, quoi. Enfin, je dirais plus ma botte, parce que je suis en Bretagne et du coup, vu qu'il y a beaucoup de flaques d'eau, ben voilà quoi. Je cherche une botte.
Merci Marie.
Ben, merci à toi.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application Apple Podcast et sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour échanger sur le sujet abordé avec Marie, je vous invite à laisser votre commentaire directement sous la photo de l'épisode 53 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.